BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, les contrôleurs de la SNCF veulent gâcher vos vacances et vos ponts de mai. C'est quand même ce qu'on a de plus précieux en France. Si on nous enlève ça, il ne nous reste plus rien. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va faire le point sur une semaine riche, encore une fois, en événements. On était déjà en train de débattre avant que l'émission commence sur Trump, sur l'économie, sur l'Europe, sur les marchés, sur votre argent. Alors au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est doute. Il y a des gens ici qui disent que ça y est, aux États-Unis, il y a une perte de popularité, que je n'ai pas vu, de Donald Trump, d'autres qui disent qu'on comprend pas ce qu'il fait. Et effectivement, alors si on regarde les chiffres économiques, ils sont pas très bons, on va en reparler. La question macro, on a eu les chiffres démographiques, vous savez que ça me passionne, pour la France cette semaine. Et j'ai envie de poser la question aux économistes notamment, c'est quel est l'impact d'une démographie, en gros un pays sans enfants et avec des gens de mon âge, comment ça impacte la croissance française? Le chiffre de la semaine, c'est bien évidemment ce dont tout le monde parle depuis deux jours, la déclaration de Donald Trump, sa décision de mettre des droits de douane de 25% sur les importations de voitures vers les États-Unis. Il a même dit que si les constructeurs automobiles augmentaient leur prix, eh bien il est blacklisté, comme il est en train de blacklister les cabinets d'avocats et d'autres. En deuxième partie de l'émission, bah évidemment, on va se poser la question de savoir où va la bourse. On a vu que cette semaine a été très hésitante. C'était un peu plus, zéro moins selon les places de marché. Qu'est-ce qu'on fait avec son argent s'il en reste un peu dans cette période avant de payer tout en impôts? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions achetées ou vendues. Mais vous le savez maintenant, c'est ma partie préférée de l'émission. La présentation des invités exceptionnels, nos Jedi de l'économie et de la finance. Ouïouïouïouïouïouïouïou. Les temps sont durs pour ceux qui défendent l'investissement responsable. Mais alors elle tient le choc. Elle reste droit dans ses bottes militaires d'ailleurs. Léa Dunant-Châtelet, vous êtes le poste existe encore, directrice de l'investissement responsable. Vous n'avez pas été nommée responsable de l'armement?
Non, pas encore, mais on se raccroche aux branches avec un rebond de l'Europe qui fait que, étant leader du développement durable en Europe, quelque part, c'est peut-être un premier signe.
Alors, je ne sais pas si c'est un signe, mais votre pull qui était souvent vert clair est devenu vert kaki.
C'est vrai, c'est vrai. D'accord. C'est un moyen de faire la transition.
Je dis ça pour les gens qui nous écoutent à la radio. Donc, est-ce que vous êtes en train de tourner peut-être pas votre veste, mais déjà votre pull?
On repense tout, bien sûr.
Sa sagesse, sa vision, son recul nous permettent de mieux analyser une économie mondiale sans dessus-dessous. Et je me suis quand même aperçu qu'on était à peu près d'accord sur rien avec Hervé Gouletker. Mais je continue quand même à l'inviter parce que ça m'intéresse. Conseiller économique chez Accuracy. J'ai enlevé le senior parce que je trouve que ça va pas du tout. Oui, parce pourtant, que ça fait vieux conseiller économique.
Mais Marc, senior, c'est la seule chose que nous avons en commun. Il faut que vous le gardez.
Ben non, justement, conseiller économique, ça me va très bien. Entre les nuages du cloud, le soleil de Sony AM, il y a le royal Louis de Montalembert, gérant de Sony AM.
C'est très beau.
Je vais le garder.
Bravo, c'est magnifique.
Je peux le garder, ça.
C'est magnifique, absolument.
Elle court, cette marathonienne de l'économie, pour garder la forme et nous éclairer avec brio sur l'économie mondiale, et on en a besoin. Valentine Hénouz, merci d'être venue. Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute.
Bonjour Marc.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Vous continuez à venir chez nous parce qu'on vous voit partout, donc je me pensais que vous n'y êtes plus à BFM, mais non, c'est bon.
C'est toujours un plaisir.
Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Et le mot de la semaine, c'est doute. Le doute, le morceau s'appelle Anxiety. Je l'ai trouvé, c'est un truc très branché.
Oui, j'étais étonné.
Oui, moi aussi, je suis étonné. En fait, je vais vous dire la vérité. J'ai tapé sur Internet, j'ai dit tube, anxiété, peur. Ils m'ont sorti ce truc qui vient de sortir. Alors, je vous dis le nom de la personne qui chante, c'est Doichi.
Tout le monde connaît.
Tout le monde connaît, non?
Oui.
Ah bon? C'est hyper connu, ça?
Oui, bah oui. À la différence entre les seniors.
Ah ouais, non, c'est grave.
Moi, quand
je vois la liste, c'est horrible. Non, je vais pas le dire. Allez, le doute, l'anxiété, les indicateurs de confiance des consommateurs américains sont en chute. L'effet Trump est devenu peut-être un effet incertitude. Hervé Gouletker, on n'était pas d'accord tout à l'heure avant l'émission. Vous nous dites, je ne sais pas où vous avez vu ça, qu'aujourd'hui, le début de mandat de Donald Trump en termes d'opinion publique est le plus mauvais des derniers présidents et même de Donald Trump 1.
Oui, alors si on regarde...
Il va falloir citer vos sources.
Alors, si on regarde les études, alors moi je pense à celle de l'Institut Pew, mais il y en a d'autres. Donc, est-ce que vous approuvez l'action de Trump menée depuis qu'il est revenu au pouvoir? D'abord, ce que l'on voit, c'est depuis son retour au pouvoir, il y a une baisse. Après, si on compare cette baisse à celle de ses pairs, en commençant par lui-même, c'est plus mauvais que l'essentiel de ses pairs allés sur les 20 ou 25 dernières années, et c'est plus mauvais que Trump 1. Alors ça, c'est complètement factuel. Ça veut dire que le désordre qui entoure les actions de Trump aujourd'hui fait que les gens perdent leurs repères. C'est uniquement cela. Alors après, ça se retrouve d'ailleurs quand on prend toutes les enquêtes. Alors auprès des ménages, auprès des constructeurs.
Des enquêtes de confiance. Hein.
Voilà. En gros,
du Michigan,
tout le monde aujourd'hui est très prudent, sachant que plus vous êtes petit, plus vous êtes pessimiste. Les ménages sont pessimistes, les PME sont pessimistes, les grandes entreprises le sont plutôt moins. Mais il y a cela. Mais le paradoxe, ça serait trop simple si tout allait dans la même direction, c'est que si on prend les statistiques économiques, la consommation, l'emploi, les commandes, bon...
Il y a, c'est pas la joie quand même.
Il y a un ralentissement,
ah oui.
mais ça tient le coup tout de même. Quoi. Okay. On n'a pas un parallèle entre les enquêtes et les données en dur.
On peut avoir des très mauvais chiffres pour le premier trimestre quand même.
Alors, si on essaie de mettre tout ça ensemble, il n'y aura pas de croissance sans doute au premier trimestre.
C'est quand même pas terrible.
États-Unis.
On vient de 2,9%.
Pour une raison, c'est qu'on va avoir beaucoup d'importations. Ça pèse négativement sur la croissance. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, parce qu'il faut se méfier des chiffres dans ces moments un peu compliqués, les entreprises importent pour stocker. Donc, normalement, on doit avoir plus de stocks, plus d'imports, et l'un et l'autre devraient se neutraliser en termes de croissance, ce qui signifierait tout de même que les autres variables, la consommation, l'investissement, etc., ça ne doit pas être terrible pour le premier trimestre. Donc, pour le moment, il y a une espèce de couac de la croissance américaine. Est-ce qu'on peut extrapoler le couac en se disant qu'est-ce qui va se passer au deuxième trimestre ? On n'est pas capable parce qu'on s'accroche à quoi ? Pour définir ce qui va se passer demain. Donc, le niveau d'incertitude, vous l'avez rappelé, est extrêmement élevé. Aux États-Unis, mais par effet de capillarité, dans le reste du monde aussi. Donc, ouais, on est un peu en observation. On peut faire des paris pour demain, mais il faut juste savoir que ça tient des paris. On a envie de passer par-dessus les incertitudes actuelles en disant « après-demain sera mieux », mais ça, c'est compliqué à faire.
Valentine, il y a deux avis qui sont totalement divergents. Il y a ceux qui pensent que c'est un homme qui a un plan à 2 ans, à 4 ans, voire au-delà des prochaines présidentielles, puisqu'on entend quand même pas mal de rumeurs sur des changements de constitution et autres. Et donc, en fait, il est en train de tester un peu toutes les limites de la constitution, du droit, de l'économie, des partenaires économiques, de l'automobile, de tous les secteurs, de l'OTAN, de l'Ukraine, et puis ceux qui, un peu comme Hervé et d'autres, et c'est la plus grande majorité, disent en fait, le gars sait pas du tout où il va, et ça crée de l'incertitude, et donc ça crée un poids sur l'économie américaine.
Non, et là, pour moi, il y a un plan, et ce plan, c'est une volonté de réindustrialiser, de rééquilibrer les échanges commerciaux, c'est clair, de réindustrialiser à marche forcée l'économie américaine, de faire baisser les dépenses, de voir un gouvernement plus efficace en termes de dépenses et de baisser les impôts. Donc il y a ça c'est une partie.
Ça c'est son plan économique.
Pour moi c'est ce plan économique qui est un plan qui est un plan à moyen terme.
Sur papier quand vous dites ça on se dit c'est un bon plan.
C'est un plan, c'est son plan. Après qu'il est bon ou qu'il est pas bon ça se discute parce que réindustrialiser ça veut dire que les entreprises vont devoir accepter des baisses de marge. Les entreprises aujourd'hui aux États-Unis, elles ont des marges sur des plus hauts historiques. Mais si on veut rapatrier les chaînes de production sur le territoire américain, ça veut dire qu'il va falloir accepter d'avoir moins de marge. Et surtout, à très court terme, ça veut dire exactement, je suis d'accord, une économie américaine aujourd'hui qui va globalement bien, qui ralentit mais qui reste solide. Et on met à mal avec un niveau d'incertitude qui est extrêmement élevé. Donc on met à risque aujourd'hui l'économie américaine avec ce niveau d'incertitude. Et aussi, le deuxième point qui est important, qui va peser sur l'économie américaine, c'est l'inflation. Parce que vouloir rapatrier les chaînes de production sur le territoire américain, ça veut dire un risque d'avoir de l'inflation. Et là, la Fed peut se retrouver face à un dilemme avec des risques, d'un côté, des risques baissiers sur la croissance et des risques aussi sur l'inflation.
Mais vous êtes conscient que quand on écoute des gens comme vous, on se dit, en fait, on ne peut jamais rien faire. C'est-à-dire que si je fais ça, il va y avoir de l'inflation.
Je porte pas de sujet ce qu'il va faire. Il y a un coût à ce qu'il va faire.
D'accord.
Il y a un coût qui veut dire de l'incertitude à court terme, du désordre sur les chaînes de...
L'exemple extrême, c'est ce qu'on a chez nous. C'est-à-dire un immobilisme total, il ne se passe rien et on va dans le mur.
Non, il agit. Donc on peut au moins lui donner ce crédit d'une volonté d'action. Après, on peut discuter de l'intérêt ou pas de ses objectifs, mais il y a un coût. Il y a un coût à ce plan.
Et voilà. Il y a un coût à tous les plans.
Il y a un coût qui est à court terme.
Il y a un coût à tous les plans. C'est-à-dire, moi, ça me rappelle, là, au moment de la crise européenne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ben, il y a eu un coût dramatique, hein. Mais ouais. Aujourd'hui, regardez où ils sont.
Mais moi, j'ai
pas apporté...
Non, je sais que vous
j'ai pas apporté de jugement sur ce coût. J'ai juste à dire qu'à court terme, il y a un risque croissance et un risque d'inflation. Voilà.
Il y a toujours un risque.
Moi, je pense.
Louis de Montalembert, vous qui avez prôné soutenu la candidature de Trump, Biden.
Je pense que Trump va véritablement à rebours de l'histoire grâce à une part de son électorat. Ce que je veux dire par là, c'est que le sens économique, c'est toujours de monter dans la chaîne de valeur. Donc on commence par extraire de la matière première, et puis quand on commence à être un peu plus développé, on finit par avoir une industrie, et quand on est encore plus développé, on laisse les autres fabriquer, et on produit des services à plus forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'était un gérant de fonds qui disait, oui, les Européens ont peut-être une balance commerciale avec services qui est de 50 milliards en leur faveur, mais en réalité, en nous vendant des bagnoles à 10% de marge, quand on leur vend des services à 50% de marge. Et donc, Trump veut utiliser du capital aujourd'hui pour réindustrialiser. Voilà. Alors que c'est le pays qui a inventé Nike, qui est justement la fabless company, c'est-à-dire on conçoit et on fait fabriquer par d'autres gens. Donc c'est à rebours de l'histoire, et pour ça, il est prêt à affaiblir le dollar, donc à aller dans des extrêmes. C'est vraiment, on retourne dans les années 50, c'était tellement plus chouette. Donc affaiblir le dollar.
Les accords du Plaza, c'est 85.
Oui, mais pour pouvoir vendre, d'accord, mais parce que vous êtes plus âgé que moi, vous savez ça.
Mais c'était une quarantaine d'années, c'est pas
grave. Mais depuis, ils ont inventé un secteur du logiciel, de l'informatique.
Bon, on s'aperçoit quand même que pour construire des ordinateurs, aller dans le cloud,
mais c'est 15%,
il faut des minerais.
Mais c'est 15%. Il y a des endroits stratégiques.
D'accord.
Non, mais il y a des points stratégiques. Il faut peut-être réindustrialiser de manière stratégique, mais ils ne vont pas faire des t-shirts.
Léa et après Hervé.
Non, mais ça me fait penser à une citation de Loïc Le Floch-Préjean sur l'énergie qui disait en France, on avait le savoir-faire, comme dans beaucoup d'industries. Ensuite, il y a le savoir-faire, le faire-savoir, c'est-à-dire envoyer ce savoir-faire ailleurs et faire. Il dit, et quand on n'a plus le faire, on n'a plus le savoir-faire. Moi, je pense que c'est exactement ça qui est en train de se passer, c'est qu'on réindustrialise aussi pour que les compétences, au-delà de la chaîne de valeur, reviennent sur le territoire. Oui. Et pour revenir sur ce que Valentine disait, c'est de l'incertitude, c'est surtout de l'absence de visibilité à deux niveaux pour nous et qui est très important. Il y a une incertitude sur la partie macroéconomique et donc les conséquences qui ont été évoquées. Donc finalement, les marchés savent pas où ils vont. Et puis, il y a surtout une incertitude et un manque de visibilité microéconomique, secteur par secteur, parce que les annonces pleuvent tous les jours sur des secteurs différents. Les impacts sont très difficiles à mesurer et on ne sait pas à quel moment en plus ils vont intervenir. Et donc aujourd'hui, on a un attentisme total. La seule chose qu'on peut remarquer, et moi je trouve que c'est un point positif, c'est que pour une fois, contrairement à ce que vous avez dit, eh ben, l'Europe se réveille. Et c'est peut-être le seul point positif qu'il faut regarder de notre point de vue.
C'est le contraire.
Oui, mais
je parlais de la France.
Oui, ça c'est encore un autre sujet. Mais je pense vraiment que le point positif, c'est ça, c'est que l'Europe vient de se réveiller en se disant, il faut vraiment qu'on trouve une autonomie, une indépendance. C'est fondamental à tous les points de vue. Et donc, ça se voit dans les performances
du
marché.
Moi, ce que je veux dire, et c'est pour répondre
à
Louis. Je me permets, merci Monsieur Fiorentino. En fait, moi je pense qu'il y a une vision fondamentalement pessimiste chez Trump, c'est-à-dire que l'optimisation des chaînes de valeur, avec tout le discours tenu par Louis, ça correspond au monde d'hier chez Trump. Trump aujourd'hui se dit, on entre dans un monde de la finitude, c'est-à-dire que les marchés sont en train de se refermer, les autres pays nous sont plus ou moins hostiles. Avoir accès à la matière, c'est compliqué. Il faut que j'arrive à la contrôler. Et c'est pour ça qu'on a des bruits de bottes, des choses comme cela. Et finalement, c'est par défaut qu'il se dit, il faut que ça soit chez moi, parce que si c'est à l'autre bout de la planète, je vais peut-être pas le contrôler. Donc en fait, il nous fait entrer, et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas faux. Dans un monde complètement différent de celui des quelques décennies que l'on a connu.
Différent, mais ça veut pas dire qu'on revient en arrière. C'est ça qui...
Non, on va pas en arrière. Voilà. C'est un nouveau monde, mais en fait, c'est un monde qui, sans doute, et c'est vrai, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, en termes de rentabilité, ça sera moins bien qu'avant, mais...
On nous a souvent dit ça, hein, ça s'est jamais passé.
On l'a jamais vraiment fait.
Pour une fois, ça marchera peut-être. Il y a plein de foucades chez Trump, il y a plein d'irrationnels chez Trump, mais je pense qu'il a une espèce de préscience de ces changements, et il veut préparer son pays à ces changements. Mais les changements seront durs pour
comme
tout le monde et seront durs pour les investisseurs aussi.
Comme tous les changements et les investisseurs.
Il faut un référentiel différent.
Comme tous les changements et les investisseurs, j'ai envie de dire, on s'en fout pendant quelques mois, c'est pas dramatique non plus. Je veux dire, quand on a une politique ou un plan, quel que soit, c'est pas une question de savoir s'il est bon ou pas. Bon, je veux dire, on peut pas non plus faire un plan en fonction des marchés.
C'est quand même la grande surprise, parce que ce qu'on pensait de Trump, Trump l'année dernière, c'est qu'il apporterait beaucoup plus d'attention au S&P 500. Et là, on se rend compte que non, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'économie et c'est d'avoir une impulsion dans le changement économique.
J'ai envie de dire que c'est plus que l'économie, c'est la géoéconomie.
Exactement,
ou la géostratégie.
Oui.
Enfin, il est dans ce que vous décrivez. Ce que vous décrivez, c'est de la géoéconomie. C'est-à-dire une réflexion économique à travers la géostratégie.
Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que ces changements, ils se font vraiment pas sans heurte. Est-ce qu'on risque là quand même, c'est un ralentissement fort de l'économie américaine à court terme?
Mais si c'est le prix à payer pour un changement de modèle, je dis pas qu'il est bon ou mauvais, why not?
C'est factuellement, voilà, ce qu'on a, c'est un ralentissement fort avec des risques d'inflation et une Fed qui soit peut-être limitée dans sa capacité à baisser ses taux.
C'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est ça? Stagnation de l'économie et inflation.
Alors, stagflation, c'est qu'il y a encore un peu de croissance.
Ok. Donc là, vous pensez que c'est carrément zéro croissance?
Non, je dis s'il va au bout de sa guerre commerciale, il y a un vrai risque sur la croissance, quoi. Faut arrêter de...
Allez, je voudrais qu'on passe à la question macro parce qu'elle me tient à cœur. La transition démographique. Donc, on a eu les chiffres cette semaine. Bon, la population française va commencer à baisser. Si on arrive à tenir, c'est évidemment grâce à l'immigration. On a un taux de fécondité qui est autour de 1,60. On était évidemment au-dessus de 2 il y a quelques décennies. C'était le taux de renouvellement. On est largement au-dessus des 1,40 de l'Allemagne, du Japon, des 1,20 de l'Italie ou des 0,58 de la Corée du Sud. Mais évidemment insuffisant pour le renouvellement de la population. Les décès rattrapent les naissances. Moins d'enfants, plus de chiens, plus de seniors. Ça ressemble à quoi une économie qui est soumise à cette transition? Parce qu'on peut en parler. On parle beaucoup de transition écologique, transition militaire, mais transition démographique, Hervé Goulet-Kier.
Alors, je crois qu'il y a un aspect intérieur, et comme ce qui se passe chez nous se passe aussi ailleurs, il faut prendre en compte aussi l'aspect extérieur. C'est vrai que, toutes choses égales par ailleurs, et je reviendrai là-dessus après...
Non, ça veut... on n'aura pas le temps. Donc, tout ce que vous avez à dire, vous le dites maintenant.
Bien, monsieur Fiorentino. En fait, ça veut dire qu'on va avoir une croissance de l'emploi progressivement de plus en plus faible, en n'oubliant pas que dans notre monde à nous, États-Unis, Europe et Chine, la population en âge de travailler, ça fait déjà quelques années qu'elle baisse. Donc on voit bien que sur l'emploi, c'est pas très bon. Donc l'emploi est un des facteurs contribuant.
Je peux vous arrêter juste une seconde, c'est pas pour vous contredire. L'emploi, c'est pas très bon. Mais d'un autre côté, s'il y a moins de population active, il y a moins de chômage, ou je dis une connerie?
Oui, il y aura moins de chômage, vraisemblablement. Mais dans ce cas-là, vous pouvez vous poser la question, moins de chômage, un marché de l'emploi plus tendu. On reviendrait un peu sur ce que Valentine nous proposait, avec un angle différent. Moins de croissance et une inflation plus forte.
C'est pas ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, c'est quand même le laboratoire de la démographie. Il y a eu un taux de le plein emploi, pas de hausse des salaires, pas d'inflation, pas de croissance.
Oui, mais alors, vous avez raison, mais dans le modèle japonais, ou dans la crise japonaise à partir du début des années 90, vous avez aussi une question d'excès de capital. Il y avait eu un surinvestissement dans les décennies précédentes, donc il fallait que l'on élimine tout ça, et je pense que cette dévalorisation du capital est une des clés pour comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette dévalorisation a poussé les prix plutôt à la baisse, les salaires se sont calés sur cela, mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la dévalorisation du capital étant plutôt un sujet mis derrière au Japon aujourd'hui, avec un taux de chômage plus bas, certes, l'accélération des prix qu'on a connue, on a quand même des salaires qui se portent mieux.
Il a fallu 35 ans.
Alors, je reviens tout de même sur la démographie. Donc, première idée, vous avez une moindre contribution de l'emploi à la croissance, moins de croissance. Est-ce que ça peut être compensé par de la productivité? On se dirait, oui, on va faire des efforts de R&D, d'investissement. En fait, ce que l'histoire nous apprend, c'est que quand on a une population active vieillissante, en termes de démographie, c'est pas très bon. Donc, en fait, si on réfléchit uniquement en termes de croissance, pas terrible. L'inflation, par contre, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Et donc, un équilibre croissance-prix qui ne sera pas celui qu'on a connu ces dernières années. Et puis, au niveau international, il faut bien voir que cet ensemble formé par l'Occident et la Chine, qui pesait encore les 35%, 40% du produit intérieur mondial, progressivement, il va baisser au profit d'autres régions du monde. Et donc, dans les rapports de force géoéconomiques, géopolitiques, eh bien, ça sera moins en notre faveur que ça n'était le cas jusqu'à maintenant, sachant que le grand vainqueur en termes de démographie, de jeunesse, c'est l'Afrique subsaharienne. Peut-être qu'en termes économiques, ça suivra. Ça, pour le moment, on n'en a aucune idée.
On n'y est pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact pour vous en tant qu'économiste de la démographie sur l'économie? Est-ce que c'est le tableau que nous dresse Hervé?
Je pense qu'il faut éviter à ce stade aujourd'hui les schémas préconçus. L'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins, et ce qui caractérisait une économie avec une baisse de démographie, c'était une abondance de l'épargne. Et là, on n'est pas dans un environnement où il y a une abondance de l'épargne. Aujourd'hui, en Europe, il y a quand même une prise de conscience qu'il va falloir investir. L'Allemagne vient d'annoncer 500 milliards d'investissements pour les 10 prochaines années. On voit qu'il faut investir pour renforcer notre défense. On va sûrement devoir investir aussi pour rattraper notre retard sur le numérique. Donc ça, on n'est pas dans ce schéma classique dans un environnement où il y a une faible démographie, d'une abondance en termes d'épargne. On va avoir une pénurie d'épargne. Donc ça, c'est déjà un...
Mais on a une abondance aujourd'hui d'épargne.
On a une abondance, mais aujourd'hui, on va devoir investir et réallouer notre épargne sur des investissements plus risqués et plus productifs. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait de façon classique dans un environnement où il y a la population qui vieillit. Quand il y a une population qui vieillit, en général, eh bien, il y a une abondance d'épargne et surtout une épargne qui est placée sur des investissements, des produits sans risque. Et là, on va devoir faire quelque chose de différent pour les 10 prochaines années. Donc pour moi, ça va être quelque chose à surveiller. Et l'autre facteur qui est aussi différent, c'est quels vont être les gains de productivité qui vont découler de ces investissements. Et ça peut changer la donne sur le marché de l'emploi.
Léa ?
Il y a une chose qui m'intéresse, c'est qu'on regarde effectivement ce sujet démographique au niveau local avec nos pays vieillissants, mais finalement, vous l'avez dit, transition démographique. Et il y a tellement de phénomènes aujourd'hui au niveau global, dont on sait que la transition démographique, elle va aussi se faire physiquement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les pays vieillissants vont être le réceptacle aussi d'une transition de personnes, pour des raisons...
Pour des raisons politiques, c'est pas tellement chemin qu'on prend. Hein.
Non, ça c'est vrai, mais en revanche...
Ça va pas être simple à vendre, hein, dire qu'il faut faire venir 2 millions de personnes.
Mais le rapport de force dont parle Hervé est très important, parce que à partir du moment où on va manquer de main-d'œuvre, ce qui est déjà un peu le cas en Allemagne d'ailleurs, et on l'a vu à plein de niveaux, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous délocalisez votre appareil productif là où il y a de la main-d'œuvre, ce qui est de moins en moins possible, et on en reparlera parce que cet appareil productif, il est dans des zones à risque, pour plein de raisons, soit finalement vous allez avoir un déplacement de population. Et ça, c'est quand même les grandes tendances qu'on voit depuis une dizaine d'années dans les études. L'Afrique subsaharienne notamment est très concernée, va remonter progressivement vers nous. Donc peut-être aussi que quelque part, il y a une logique malthusienne dans tout ça, et ce qui est en train de se passer dans nos pays favorisera, au moins en termes d'équilibre, l'accueil de ces populations-là à un moment ou à un autre, indépendamment du sujet politique.
Louis, vous qui êtes très loin de tout ça, de votre nuage...
Non, moi je me souviens qu'effectivement les Trente Glorieuses ont été propulsées par un taux de fécondité évidemment, qui était historiquement haut, au-dessus de 3 en France et en Europe de l'Ouest, parce que on crée des nouveaux consommateurs. Alors nous, on crée des nouvelles personnes âgées, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une phase... Non, mais c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont encore dans l'appareil de consommation. Donc c'est là où on peut imaginer effectivement que ça peut avoir un impact en termes de récession. Mais moi, la question que je me pose, c'est plus sur l'épargne. En fait, on parle de l'épargne des ménages qui est élevée. La réalité, c'est que si on regarde l'épargne de la France, je ne suis pas sûr qu'elle soit positive. C'est-à-dire, les ménages épargnent parce que l'État est un pécunieux. Et donc, les ménages financent l'État là où ils devraient, au contraire, aller investir dans des appareils productifs à l'étranger, ce qui leur permettrait de construire une rente pour le pays. Le donc, ce n'est pas le cas.
Le solde est quand même positif, entre l'épargne des ménages, si on met en balance l'État et...
Très
largement, il dit n'importe quoi.
Non, il dit pas n'importe quoi. Ce que Louis dit, c'est que on peut être concerné, apeuré par la façon dont les finances publiques sont gérées et que ça peut nous inciter à épargner plus. C'est
d'accord, mais
c'est
aujourd'hui,
l'effet de Ricardo, on disait comme ça autrefois.
Notre équilibre,
ah non, mais on est à 16 ou 17% d'épargne,
parce que 18.
Ce qui en termes de PIB correspond à 10 points de PIB à peu près. Et bonne nouvelle pour lui, le déficit des finances publiques est inférieur à 6%.
Allez, on va parler en deuxième partie de l'émission, on n'a pas eu le temps de le faire, sur les 25% de droits de douane, parce que c'est ça qui a agité la bourse cette semaine. Où va la bourse après une semaine relativement calme, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nervosité? Le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec toute l'équipe de campagne de Biden, Valentine Hénouz, Louis de Montalembert, Hervé Gouletker et Léa Dunant-Châtelet. Je me sens bien seul. Allez, on va parler tout de suite du chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est celui qui a agité les marchés. Alors c'est bien finalement de le faire en deuxième partie de l'émission parce que c'est plus proche des marchés. C'est parti donc dès le 2 avril, jour annoncé comme celui de la libération économique des États-Unis par Donald Trump. 25% les taxes sur les voitures importées. Bon, ça n'a pas été la fête. Alors, ce qui était intéressant, c'est que non seulement, évidemment, le cours des importateurs, enfin des constructeurs, pardon, européens a chuté, coréens, japonais, mais le cours des constructeurs américains a chuté aussi, puisqu'on ne sait pas très bien, enfin, a priori, ça devrait porter aussi sur les pièces détachées, mais il dit qu'il pourrait y avoir des exemptions pour une partie des pièces détachées qui sont utilisées par des usines de construction automobile aux États-Unis. Bref, pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose. C'est le 2 avril. Quel impact mécanique d'une hausse de 25% des droits de douane sur l'automobile pour l'économie américaine et l'économie mondiale? Valentine Hénouz.
C'est déjà une hausse du prix des voitures hein, américaines. Là, on estime que si on applique mécaniquement, hein, c'est plus 25, ça fait plus 6 000 $ par voiture.
Il a dit que si les constructeurs automobiles augmentaient leur prix, ils seraient blacklistés.
Alors, soit c'est une hausse des prix, soit ça va être pris sur la marge des constructeurs
ouais.
auto. Hein.
Donc, ça sera la marge.
Ça sera à voir. Après, c'est une désorganisation complète des chaînes de production. Les États-Unis, c'est 16 millions de voitures. Il y a la moitié des voitures qui sont importées, notamment du Mexique. Mexique, c'est 3 millions du Canada. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que les voitures qui sont produites aux États-Unis, 60% des pièces sont importées. Donc, c'est pour ça qu'aussi les constructeurs automobiles américains ont réagi négativement à cette annonce. Ils sont importés eh bien, du Mexique, du Japon, de la Corée, de l'Allemagne, du Canada.
C'est un facteur d'inflation.
C'est un facteur d'inflation, ça va.
C'est un facteur de désordre.
C'est un facteur de désordre et ça va ralentir la croissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le secteur auto est aussi important pour Trump. C'est quand même un quart du déficit commercial. Hein. Donc c'est vraiment le secteur. Pour
oui, mais
Trump
est-ce qu'en
est
faisant
important.
Ça, est-ce qu'en faisant ça, Hervé Gouletker, moi j'ai juste besoin de comprendre, est-ce qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses?
Alors c'est une des motivations des droits de douane. Dans les droits de douane, il y a trois motivations. Remettre de l'ordre dans les comptes extérieurs, Valentine nous le disait. Avoir un levier de pression pour que les partenaires se comportent comme souhaité par l'administration Trump et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Dans le plan, et là on peut dire que c'est mal foutu, pas très rationnel, dans le plan de Trump, il y a l'idée, ben, finalement... le train de vie de l'État américain, ça serait tellement mieux s'il était financé par les autres et pas par les Américains. Il y a un peu cela, mais finalement, si on essaie de voir le coup d'après, il y a des droits de douane, ça va modifier le comportement des uns et des autres. Par exemple, les constructeurs étrangers vont se dire « Ok, il faut produire plus aux États-Unis ». Et dans ce cas-là, la manne fiscale que représentent les droits de douane, elle va baisser. Autre élément, si jamais... il n'y a pas beaucoup de croissance, il y aura moins de rentrées fiscales et les droits de douane, ça ne suffira pas à compenser les baisses d'impôts. Donc en fait, il y a un peu une illusion de croire que les droits de douane peuvent être un substitut à de la taxe sur la consommation, de la taxe sur le revenu, de la taxe sur le patrimoine. Les Américains, coincés, d'ailleurs, ils ne payent pas beaucoup d'impôts relativement à d'autres pays, il va falloir qu'ils continuent de contribuer, et plus que ce que laisse à penser Donald Trump
avez une idée,
et son cabinet.
C'est pas une colle. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente je connais pas le chiffre, hein, les recettes fiscales, l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble du budget de l'État ou pas aux États-Unis, on a une idée?
Oui, c'est une assez grosse partie. La caractéristique des États-Unis par rapport à nous, par exemple, c'est que nous, on a une assez grosse partie sur la consommation, ouais, que les Américains n'ont pas. Et donc, ils ont plus sur les profits, sur le revenu des ménages, mais en sachant tout de même que le taux d'ensemble est beaucoup plus bas chez eux que chez nous.
Parce que quand vous dites le coup d'après, c'est de ne plus avoir d'impôt sur le revenu, hein. C'est quand même ce qu'il dit un peu de façon subliminale. Hein.
Ah oui, non. Ce qu'il veut, c'est
Il veut supprimer l'impôt sur le revenu.
La charge fiscale soit pas, ouais, sur les Américains.
Voilà. Léa, comment vous avez réagi, vous, en tant que gérante, par rapport à votre portefeuille, quand vous avez vu ces histoires d'augmenter les droits de douane? Alors, pour l'instant, c'est l'automobile, mais on sait, ouais, que ça va...
C'est très difficile de voir le coût-bénéfice, en réalité, parce que dans ce secteur en particulier, alors effectivement, première réaction, ça impacte tout le monde, et vous l'avez très bien dit, c'est autant en Europe qu'en Asie, qu'aux États-Unis, pour plein de raisons. Par contre, bizarrement, le marché ne voit pas certaines choses qui sont les équipementiers automobiles, hein, tous ceux qui arrivent dans la chaîne de valeur amont du constructeur, qui amènent soit les pneus, soit les essuie-glaces, les pare-chocs, etc., ont des zones de chalandise en termes de production qui sont finalement assez locales. Et quand on parle avec la plupart d'entre eux, force est de constater qu'en général, les zones de production sont à côté des usines. Je vais prendre Plastic Omnium, par exemple, qui a été très impacté, qui a ses usines à côté de Tesla, aux États-Unis. Donc, la véritable partie, en fait, de coûts et d'inflation vient plutôt de la matière première, plus que les constructeurs en eux-mêmes. Là où on a du mal à comprendre, c'est que l'effet attendu, c'était quand même d'offrir un pouvoir d'achat supplémentaire aux États-Unis et aux Américains, qu'on ne va pas voir matérialiser. C'est-à-dire, soit ça va impacter les entreprises à travers leur marge, soit ça va impacter le consommateur avec une hausse des prix. Et donc, mon point de départ, c'est qu'on mesure très mal le coût-bénéfice aujourd'hui.
Donc, une incertitude totale. Louis, par rapport à votre champ d'investissement, c'est quand même assez loin de l'automobile, hein.
Oui, mais je suis impacté autant, parce qu'en fait, le problème, c'est que les marchés travaillent sur les anticipations. En fait, on essaye toujours, quand on investit dans un titre, de savoir, alors à part William Higgins, mais de savoir si dans 2 ans, dans 3 ans, le chiffre d'affaires sera plus élevé, la profitabilité sera plus élevée. Donc, on doit travailler sur des hypothèses. À partir du moment où on a quelqu'un qui met un nuage sur le champ d'hypothèses et nous dit, ben non, vous n'allez pas savoir ce qui va se passer. Donc, en fait, on voit les marchés réagir. Il y a un moment où Donald Trump ne parlait plus et tout le monde fait de la conjecture en se disant « Ah non, mais finalement, ça va être plus soft qu'attendu. » Donc, les cours ont remonté. Et puis, finalement, il dit « Non, non, je mets 25% sur l'automobile. » Et ça, alors, moi, effectivement, je suis sur la tech. La tech, c'est plus un raisonnement financier sur les marchés de manière générale. Et y aura-t-il une récession aux États-Unis? Or, il faut se souvenir que on était quand même tous en train de parler d'un soft landing et de se souvenir que la dernière fois qu'il y avait eu un soft landing, c'était en 95-96, que c'est un truc extrêmement difficile à réussir à faire. Et donc là, pof, on a un éléphant qui débarque, qui dit un jour un truc, le lendemain, le contraire. Et donc, les anticipations des agents économiques sont extrêmement difficile à faire. Et qu'est-ce que font les gens? Ils posent leur crayon. J'ai rencontré le patron d'une société cotée française qui vend des dispositifs qui coûtent $100,000 pièce, dans lequel il y a moins de 3% d'aluminium. Il a ces dispositifs qui est bloqué en douane aux États-Unis parce que les gens se grattent la tête pour savoir comment est-ce qu'ils doivent le taxer, comment est-ce qu'ils mesurent l'aluminium qui est dans le dispositif. Donc là, on est dans un champ des possibles qui s'élargit considérablement, sur lequel on n'a aucune visibilité. Et donc, exactement, nous, sur les actions tech, on n'est pas affectés, a priori, mais on l'est totalement parce qu'il y a une incertitude.
Alors, on va justement parler des marchés. Alors, les marchés, cette semaine, bah, c'était du 0 plus, 0 moins. Si on regarde les performances depuis le début de l'année, bah, on a toujours le CAC, hein, qui est largement en tête, hein, 8,3% de hausse. Non, l'Eurostock est à 9,9%. On a le Nikkei qui est toujours négatif, le Nasdaq qui est très négatif, mais il avait fait une très belle performance l'année dernière, comme le S&P. C'est quoi l'orientation des marchés, Léa?
Bah alors ça, c'est une très bonne question. C'est dur de devoir répondre à ça en premier. L'orientation des marchés, je pense que là, il y a sur la partie américaine, pour l'instant, il y a une pause très claire des investisseurs. D'ailleurs, ça se voit dans les flux, hein. On a des flux, enfin, qui reviennent sur les marchés européens parce qu'on ne sait pas très bien, finalement...
Quand vous dites des flux, c'est-à-dire des investisseurs, oui, qui sortent des marchés américains et qui viennent, oui, sur les marchés européens.
Exactement.
C'est pour ça qu'on a cette surperformance depuis...
Absolument. Et ce qui est quand même, il faut le noter, rare.
Ouais,
hein. Donc, ça témoigne quand même un peu de la difficulté à prévoir ce qui va se passer aux États-Unis et l'impact que ça aura, notamment rejoint ce que disait très bien Valentine sur finalement la profitabilité de ces entreprises. Bah oui, mais parce qu'il y avait dans les éléments macroéconomiques de Valentine des choses que nous on voit au niveau micro qui font l'incertitude actuellement, c'est les niveaux de valorisation des marchés américains sont à de tels niveaux, c'est soit on maintient, on améliore encore cette profitabilité, soit sinon ça pourra pas tenir. Et là,
Vous dites marché américain prudence toujours.
Ah oui, toujours. D'accord. Marché européen, on peut peut-être faire une petite pause quand même, hein, parce qu'on voit bien les chiffres en France, dans certains pays qui sont compliqués, même si cette respiration, si elle intervient, vous l'avez très bien dit, c'est une semaine très ambivalente, parce que le marché se pose des questions. S'il y a une respiration, il faudra revenir assez vite. Il y a le marché japonais quand même qui peut-être là-dedans pourrait tirer son épingle du jeu. C'est peut-être l'occasion d'y aller un petit peu en ce moment parce que finalement, il peut bénéficier de ce qui va se passer en Chine, hein, ce rebond, cette réaccélération. Et puis, il a un peu tous les témoins ouverts, lui, contrairement aux deux autres zones, Europe et États-Unis.
Oui, c'est même presque surprenant qu'il ait autant baissé. Hein.
Exactement. Donc moi, je m'intéresserai un peu au Japon en ce moment.
Louis, le marché en général.
Alors, moi, il y a un mois, quand j'étais venu ici, j'avais dit prudence. Et en fait, pour la première fois, à titre personnel, j'ai de la trésorerie. Je déteste le cash. En fait, moi, l'argent qui ne travaille pas, ça ne sert à rien. Et en ce moment.
Bah, il faut bien que l'argent travaille si vous ne travaillez pas.
Voilà, exactement. Bah, c'est mon but dans la vie, justement. Mais donc, j'ai de la trésorerie. Ça veut dire que, justement, je suis dans un moment d'inquiétude où je me dis où peut-on véritablement placer cette trésorerie. Alors, je trouve malgré tout aux États-Unis des opportunités dans des entreprises qui ont parce que on regarde les États-Unis à l'aune des grands indices, on les regarde à l'aune aussi des sept magnifiques d'entreprises. Je ne sais pas, je regardais Costco qui bizarrement est dans le Nasdaq, vaut 50 fois les bénéfices. Bon, ça n'est pas représentatif véritablement des États-Unis et donc mon appétit d'investisseur plus que de gérant se dit bon, je trouve des objets qui sont à des prix aujourd'hui qui sont extrêmement attractifs et que je veux acheter. Donc je mets un petit peu malgré tout. Alors moi, il se trouve que c'est dans le logiciel qui n'a pas bénéficié véritablement de la grande vague de hausse dans laquelle je trouve beaucoup de bonnes opportunités. Je trouve que l'Europe aujourd'hui a un news flow qui est un peu plus favorable parce que effectivement il y avait un tel différentiel de valorisation que on regagne un petit peu. Cela dit, là où je suis méfiant, c'est que on attend toute la vague de. En fait, la vengeance de Trump veut s'abattre au premier chef sur l'Europe.
C'est clair.
Et donc,
il nous déteste.
Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui d'engager davantage d'argent en Europe à un moment, même si on commence à avoir des signaux positifs, l'Allemagne qui tout d'un coup prend des décisions qu'on n'attendait pas, ben, malgré tout, le cœur de la vengeance de Trump, c'est pas très positif. L'Asie, je pense, est intéressante.
Alors justement, on va passer sur un peu l'allocation ou le placement de la semaine. Hein. Aujourd'hui, dans ce contexte actuel, Léa, c'est quoi ? On a entendu ce que tu pensais sur les actions. Notre ami Louis est inquiet, on va essayer de le rassurer. Qu'est-ce que vous lui dites à un garçon comme Louis qui est inquiet?
Alors,
ça me fait de la peine de le voir inquiet.
Merci, oui, moi aussi ça me fait beaucoup de peine et merci, ça me permet de rebondir sur ce que je voulais compléter, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même deux choses qu'il faut bien regarder. Aux États-Unis, qu'est-ce qui a marché? Parce que les marchés sont en baisse, mais il y a quand même des choses qui ont marché. C'est tout ce qui est défensif. Ce qui veut bien dire que, pour l'instant, le regard sur les États-Unis, il est très méfiant. Qu'est-ce qui a marché en Europe? C'est tout ce qui est cyclique. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si on veut rester un peu investi en Europe, allons chercher plutôt des valeurs défensives. Si on veut éventuellement jouer quelques rebonds aux États-Unis intéressants, allons chercher plutôt des secteurs cycliques qui ont beaucoup souffert. Et l'Asie, oui, je reste, et particulièrement le Japon.
Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes, valeurs défensives, c'est quoi?
Alors, les valeurs défensives.
À pas confondre avec les valeurs
défensives. Oui, je vais donner des exemples concrets. En gros, on a le secteur de la santé, par exemple, on a les secteurs des utilities, c'est-à-dire les biens aux collectivités, traitement de l'eau, des déchets, etc. Tout ce qui fait jamais des gros rebonds, en fait, hein, et qui là aujourd'hui et qui présente finalement une activité acyclique. Le cyclique qui rebondit en ce moment en Europe, c'est quoi? C'est effectivement ce plan de relance allemand. Donc c'est plutôt la construction, l'industrie, l'auto. On fait partie normalement, mais actuellement, pour les raisons qu'on a évoquées, un peu moins.
Hervé, vous vouliez vous exprimer sur le placement de la semaine?
Oui, moi je voulais dire
deux choses. Vous êtes inquiet, vous?
Non. Ah oui, moi je pense qu'il y a toutes les raisons d'être inquiet aujourd'hui. Sur les États-Unis, moi il me semble que la question tout de même, c'est l'ampleur de la baisse à venir au cours des prochaines semaines et quel espoir on peut avoir que avec une baisse d'une certaine ampleur, justement, on ait un changement de pied de la Maison-Blanche. C'est une vraie question. Aujourd'hui, on a envie d'être très prudent dans la réponse, mais c'est quelque chose à suivre de près et voir qu'est-ce quels signaux on va recevoir de l'administration Trump. Et puis l'Europe va être obligée de réagir. Alors, on parle beaucoup de droits de douane, mais on a d'autres façons de réagir. Le secteur de la tech américaine est très présent en Europe. En termes de transfert de dividendes, de droits de la propriété, des choses comme ça, on peut bouger. Sur le secteur financier américain, on peut bouger aussi. Quoi, je pense que l'idée qui est très américaine de dire « bon, c'est les fantasques de Trump, il faut juste attendre que ça se calme, et donc, s'il vous plaît, n'ayez pas de réaction », moi, je pense que dans ce monde de la finitude que j'ai décrit, qui est le monde auquel Trump a l'air de croire, on est obligé, à mon avis, d'être assez ferme.
Est-ce qu'il y a encore des opportunités sur les marchés taux? Alors, placement, parce que bon, les taux ont un peu baissé en Europe, puis ils sont remontés avec le plan allemand notamment et le plan de réarmement. Aux États-Unis, ils restent quand même assez solides. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le moment d'investir dans des fonds obligataires, par exemple?
Pour moi, aujourd'hui, on est à un moment où c'est une opportunité de se positionner sur les taux. Le plan de dépenses en investissement nous a quand même amené à réévaluer le niveau de taux qu'on pourrait estimer juste pour le 10 ans allemand, qui se tournerait plutôt aujourd'hui autour de 3%. Mais qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui autour de quoi? C'était de la politique de Trump. Quel est le principal déterminant de l'évolution de l'économie et des marchés pour les semaines à venir? C'est pas franchement les dépenses que va faire l'Allemagne pour les 10 prochaines années, mais c'est ce que va faire Trump cette semaine en termes d'annonces, de nouvelles annonces de droits de douane. Et c'est un risque pour la croissance américaine, mais c'est aussi un risque pour la croissance mondiale. Donc c'est pour ça que je trouve aujourd'hui les taux nous offrent une entrée intéressante pour se protéger contre ce risque de ralentissement.
Sauf que vous disiez tout à l'heure, parce que j'ai bien écouté ce que vous disiez, qu'il y avait quand même des risques avec les droits de douane et autres de retour de l'inflation. Ça ne milite pas pour un placement sur les taux d'intérêt.
Alors, qu'est-ce qui va l'emporter, en fait, entre ce risque de plus d'inflation et ce risque de croissance? Moi, je pense que c'est le risque croissance qui va l'emporter aujourd'hui.
Mais les obligations que l'on indexe sur l'inflation, ça peut être une bonne réponse.
C'est exactement aussi, si on va aller plus en détail. Et après,
C'est quoi ça à expliquer?
Bah, c'est toutes ces années, c'est des placements qui nous permettent de nous protéger s'il y a un retour de l'inflation.
Il y a du rendement, enfin, ça gagne de l'argent, ça?
Ça gagne de l'argent,
qu'est-ce qu'on
oui.
peut toucher sur un placement comme ça?
Oh, on est autour de 2% aujourd'hui. D'accord. Mais après, ça va dépendre en fait de si on pense que l'inflation va monter ou baisser.
Ouais, 2%, voilà. C'est le livret, quoi. C'est 2,5%.
On est sur les taux.
C'est
hein,
super.
On est aujourd'hui. On est
oui, mais
sur
on prend un risque moindre que sur une obligation classique.
On fait venir des gens devant l'écran pour leur conseiller un truc qui est moins bien que le livret, les gars.
Tu posais la question aux économistes, c'est normal.
Si on est aujourd'hui sur des niveaux de ralentissement de la croissance économique, regardez les évolutions des indices actions du Nasdaq, du Nikkei, du S&P 500.
Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine, Léa. Le top ou le flop?
C'est un flop. C'est un flop, puis ça va permettre aux gens qui s'intéressent à ce sujet d'aller regarder sur Internet. La NASA a sorti les chiffres de la montée des eaux. Ils font ça par satellite, c'est hyper intéressant. Donc, je vous invite à aller regarder. Vous tapez sur Internet NASA simulation montée des eaux. Donc, ils ont évidemment le réel et puis les perspectives. Donc là, ça a augmenté de 0,6 cm en 2024. C'est deux fois plus que ce qui était attendu. C'est une accélération très forte. Pour information, il y avait eu à peu près 10 cm de montée des eaux sur les derniers 30 ans. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact, on va prendre la France, hein, parce que si on le prend au niveau du monde entier, ça va être compliqué. C'est 20% de nos zones côtières qui sont mises à risque, on l'a bien vu avec l'actualité. C'est à peu près 300 communes. Et donc, ça a des impacts à la fois sur les particuliers, parce que évidemment, vous êtes concernés pour votre assurance, mais aussi sur les entreprises. Et je voudrais citer Stadler.
Très rapidement.
Stadler, qui est la première entreprise que j'ai vue faire un warning en début d'année, parce que ses équipementiers sont à Valence, qui a beaucoup souffert exactement de l'eau. Impossible de reprendre la production, impossible donc eux de reprendre leur production de leur côté, impossible de donner un profil de croissance ni de guidance.
Vous voyez vérifier si Deauville et Saint-Tropez sont menacés ou...
Alors la Camargue est bien dedans et Deauville un peu aussi.
Hervé?
Alors moi je ne sais pas encore si c'est un flop ou un top, mais c'est important et à suivre. Le vice-premier ministre russe, dans une conférence dans le sud de la Chine hier, a dit: en termes de relations avec les Chinois, avec les Américains, on veut que ça se passe bien et à égalité entre les deux. Quand on se souvient qu'il y a 2 ans, c'était l'amitié éternelle entre la Chine et la Russie, on ne parlait pas des États-Unis. Quand on soupçonne les Américains de vouloir retourner la Russie plus proche d'eux, plus loin de la Chine, il se passe des choses dans ce trio, c'est vraiment à suivre. Et la place de l'Europe là-dedans, on la cherche un peu.
Louis?
Moi, c'est un flop d'aujourd'hui. C'est la hausse de la taxe sur les transactions financières qui est vraiment un non-sens parfaitement français. Donc, c'est un flop. C'est à peu près l'équivalent des droits de douane de Trump. C'est, si on veut développer la place financière de Paris, bravo les gars, on continue comme ça. On est dans le bon sens. Merci Bayrou.
Bah oui, mais Bayrou, il fait rien. C'est génial par rapport à Trump. C'est extra.
Il fait des choses.
Allez, Valentine.
Allez, moi, mon top. Hein, c'est un top sur l'Europe avec une reprise quand même de la croissance.
Bah oui. Vous avez raison.
Qui s'amorce en Europe. Et si on regarde la croissance du crédit aux entreprises, elle se reprend, plus 2,3%. Donc on revoit.
Mais oui, voilà, et tout donc... va bien. Ça y est, c'est reparti.
Oui.
L'Europe est repartie.
On a une reprise des indicateurs de confiance.
Et
donc
bientôt,
voilà,
avec toutes les mesures qui ont été prises par François Bayrou, on va repartir.
Ce qu'il faut, c'est que la BCE puisse continuer de baisser ses taux et ne soit pas gênée dans ses baisses de taux par un retour de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment clé.
Et on passe tout de suite au top 3 avec un comeback des vieux de la vieille. Hein, je me mets dedans, hein, mais moi je suis pas là-dedans. Bah alors non, pas Stéphanie, excusez-moi Stéphanie, si vous m'entendez. William Higgins qui fait un retour, vous l'avez cité tout à l'heure Louis.
Oui, tout
à
fait.
Un retour percutant, 25%. William Higgins, c'est le spécialiste de ce qu'on appelle la gestion value, c'est-à-dire qu'il va acheter des entreprises, même si elles n'ont pas une énorme croissance.
Client chez lui.
Et même si elles n'ont pas une énorme croissance. Mais qui sont pas chers, c'est ça, Louis ?
Oui, oui, tout à fait. Et il regarde absolument pas l'avenir, c'est vraiment.
C'est-à-dire à un moment donné, est-ce que cette société n'est pas chère ?
Oui, tout à fait.
Donc c'est quoi les exemples de boîtes value ? À un moment, c'était tout le monde citait Stellantis.
Esso,
voilà, d'accord. Eric Blaine en deux et Stéphanie Moger, félicitations Stéphanie dans le top 3. Et maintenant, j'ai besoin d'une musique qui fait peur pour notre amie Léa, dont le portefeuille va s'afficher.
Ouais, c'est dur. C'est dur.
Alors, on a du ID Logistique.
On garde.
Novo Nordisk.
On garde.
Geberit.
Alors, on enlève.
Ah non, vous ne pouvez pas m'enlever la seule valeur que je connais et que j'utilise.
Je vais la remplacer par une valeur que vous connaissez aussi, j'en suis sûre.
OP Mobility.
On enlève aussi, eu égard à notre conversation, puisque OP Mobility, c'est Plastic Omnium, en fait.
Absolument. On l'enlève. Hein. Donc,
oui,
Knorr, Bremse.
On garde.
Les potages, ça marche toujours.
Alors, ça n'a rien à voir avec les petits bouillons.
Je la fais à chaque fois.
Oui, je sais.
ASML.
Oui, on garde.
Klépierre.
On garde.
Nib.
On garde.
Relx.
On garde.
Arcadis.
On garde.
C'est quoi ça ? Vertiv.
Oui, Vertiv. Alors, Arcadis, Vertiv, tout ça, par exemple. Vertiv, c'est la cyclique américaine qui est bien tankée depuis le début de l'année et sur lequel il y a quand même... Là, c'est pas le moment de vendre.
Air Liquide.
On garde.
Beiersdorf.
Beiersdorf, on garde, oui.
Connu.
Pareil.
Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, on achète Saint-Gobain en remplacement de Geberit, donc acteur français des matériaux de construction, très exposé à la relance allemande.
Ça, c'est quoi ? C'est cyclique, ça ?
C'est cyclique, oui, et très exposé également, et très exposé également au potentiel fin de conflit russo-ukrainien. GTT, plus petite valeur, qui est le leader mondial des membranes qui permettent de faire les cubes pour les tankers, qui a un carnet de commandes dont on ne voit plus la fin, tellement c'est le seul à pouvoir le faire.
Et ce n'est pas une boîte qui a été en grosse difficulté à un moment ?
Oui, mais il y a très longtemps.
Il y a très longtemps, d'accord. Et donc là, le retournement s'est fait, et donc c'est une boîte...
Oui, c'est fait même depuis un moment, elle a fait un très beau parcours l'année dernière.
Qui sort sur l'avenir, c'est-à-dire les énergies fossiles.
Oh, les énergies fossiles vertes. J'ai le droit à ce concept ou pas? Je le développerai la prochaine fois.
C'est quoi les énergies fossiles vertes?
Bah, c'est là où on met le gaz naturel, mais on ne sait pas trop s'il est naturel ou pas. Enfin bon, c'est
allez,
un flou.
Une musique, j'adore ça, on va la garder, ça là. Louis de Montalembert, je ne vous citerai pas, je dirais qu'elle est de moi. On a du Snowflake.
On garde.
On a du Bill.com.
On garde.
On a du Monday.
On garde.
On a des élastiques.
On
a du MongoDB.
On garde.
On a du GitLab.
On garde. Bravo.
On a du Procore.
On garde.
On a du Braze.
Ça a sorti ses résultats hier soir, c'est à plus 10 en pré-market.
Ouais, il était temps que ça monte. On a du Adyen.
On garde.
On a du Sentinel One. C'est militaire ça ou quoi ?
Non, Sentinel One, c'est de la cybersécurité.
Ouais, ah oui, mais quand même.
Oui, mais c'est de la cybersécurité d'ordinateur. C'est installé sur tous les Lenovo qui sortent d'usine, par exemple.
Salesforce.
On garde.
Et Viva.
On garde. Et
qu'est-ce qu'on achète, oui ?
Alors, le 10 janvier, j'étais venu, je vous avais recommandé...
Ah, vous n'avez pas nous reciter tous vos trucs, et le 8 janvier, j'ai dit qu'on avait fait ça.
Le 10 janvier, j'ai recommandé Cloudflare à $112. Je l'ai sorti mi-février à $177.
Vous êtes un trader.
Elle est aujourd'hui à $118, mais je le fais pour vous parce que je sais que vous aimez ça. Elle est aujourd'hui à $118. Et donc, nous rentrons Cloudflare, qui est vraiment...
Alors, que fait Cloudflare ?
C'est une entreprise absolument stratégique dans le développement de la technologie.
Expliquez-nous.
Parce que c'est ce qu'on appelle du edge computing. C'est 300 petits data centers qui sont au centre des villes, donc qui est essentiel pour avoir un temps de latence sur les données qui soit minimum, qui est au centre aussi de toutes les stratégies de cybersécurité. Donc c'est une entreprise qui fait aujourd'hui, qui va faire 2,1 milliards de dollars l'année prochaine, qui croît encore à 27% qui croit à peu près à 27-28% par an,
et qui
va avoir un chemin de croissance pendant très longtemps, parce qu'en fait, il faut comprendre que pour l'IA, vous avez besoin de Edge AI, vous avez besoin justement d'un temps de latence extrêmement court. Donc, ils ont un actif qui est absolument unique. C'est une entreprise qui est très belle. Et donc, comme elle est très belle, elle est très chère. Je sais que vous étiez foutu de ma gueule le 10 janvier.
Jamais je ferai ça, Louis.
Je l'ai quand même rentrée et j'ai gagné 55% dessus. Donc, je la re-rentre au même prix auquel je l'avais rentrée le 10 janvier.
Elle vaut combien de fois les revenus?
Oh, elle vaut peut-être pas plus que 18 fois les revenus.
Ah oui, 18 fois les revenus.
C'est pas très cher. C'est pas très cher.
Merci beaucoup. Vous nous avez éclairé dans cette période de brouillard. Enfin, moi, j'y vois clair, mais vous avez l'air d'être complètement perdu à cause de ce pauvre Donald Trump. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui, cette fois-ci, sera vraiment exceptionnelle. Vous pouvez toujours me poser des questions d'économie ou de placement. Ne rigolez pas, d'économie aussi. Sur marc@bfmbusiness.fr et je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes pour combattre un nouveau record en 2025 après le record de 2024.